Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de notre groupe d'amis réunis par la rugby. Alors moi je suis un ancien joueur de foot américain, mais j'ai eu le joie et le plaisir de jouer au rugby avec notre dreadeux à nous, c'est Charlie Bayer, qui est aujourd'hui capitaine de son équipe à Massif Central. Salut Charlie.
Salut mon TK, ouais, j'ai eu la chance de jouer, de pousser derrière toi dans la mêlée. Et je suis en effet au Massif Central, enfin quand le Massif Central jouait, j'étais encore capitaine, mais bon, on commence à oublier un peu l'odeur des terrains, malheureusement.
Et les vestiaires.
Ça c'est mieux d'oublier.
Quand même, écoute, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, parce que mine de rien, après Destination, il y a énormément de rugby qui se passe. Donc ça, c'est la bonne chose. Donc nous allons parler rapidement de tout ça. Mais en fait, le star de cet épisode, c'est en fait notre interview. C'est avec Miguel Fernandez, qui est un agent sportif, agent de rugby. Il est agent, par exemple, pour plusieurs joueurs sur notre 15 de France à nous. Donc nous allons découvrir ça tout de suite. Mais pourquoi pas démarrer avec un peu de rugby, mon Charlie.
Oui, super interview. Donc, on va essayer de faire très rapide sur tous ces événements rugby auxquels on a eu droit ce week-end et pour lesquels on se projette au week-end prochain, parce qu'on a hâte de découvrir tout ce que peut bien vivre un agent de joueur.
Exactement.
On a eu droit la semaine dernière, il faut quand même en parler, le tournoi des Six Nations féminin a commencé, enfin, et a commencé pour la France par la plus belle des manières, puisqu'on a atomisé des pauvres Galloises à 53-0, il y a eu une pluie d'essais, c'était un très beau match parce que ça a commencé très très vite en fait, parce que dès la deuxième minute, il y a Caroline Boujard dans l'ailière de Montpellier qui, comme un œuf, sort du ruck pour marquer un essai qui sera un doublé peu de temps après et un triplé peu de temps après, après des belles séquences où on a vu une belle schistée et des belles passes sur un pas. Et donc après ce début de match consacré aux trois quarts, je crois les grosses se sont réveillées et ont voulu quand même montrer que le rugby commençait devant. Et juste après la mi-temps, après un ballon chopé en touche par Koumba Diallo et aplati par le talon, les gros se rappelaient au bon souvenir des Galloises aussi. Et la deuxième mi-temps, il y avait un peu de tout, mais il y a eu des belles choses. Il y a eu des belles choses des avants, parce que pendant les 10 premières minutes, ce sont les grosses qui ont marqué leurs adversaires et qui ont permis à Emeline Gros de mettre un doublé. Et les deux fois sur des mêlées, donc c'était bien une révolte de nos avants. Le premier, en plus, c'était sur une mêlée adverse qu'on a réussi à récupéré grâce à une très belle poussée. Même si peu de temps avant la fin, les Galloises nous ont quand même repiqué une mêlée. Je pense que c'était un peu piqué au vif. Donc cette mêlée gagnée des Galloises, il fallait quand même la souligner parce que c'est un peu le seul truc à noter de cette équipe de Galles, décidément, qui n'a pas passé une belle journée. Mais ça ne nous a pas trop dérangé parce qu'après avoir perdu cette mêlée, on a récupéré le ballon. Et après une super relance, il y a Émilie Boulard qui, pour sa première sélection, a mis son premier essai en équipe de France. Elle a été célébrée comme il se devait. C'était un très bel essai qui conclut à une très belle relance. Et même ça n'a pas fini à calmer la faim de nos Françaises, puisque jusqu'à la 84e, elles continuent à poutrer. Et les avants, qui voulaient quand même rappeler qui c'était Raoul, sont venus mettre un dernier essai juste avant la fin, 53-0. C'est extrêmement lourd comme score et on est très content de nos Françaises.
Et ouais, c'était un vrai plaisir de regarder ce match et de retrouver aussi nos joueuses à nous. Grand bravo à Caroline Boujard, notre copine sur notre podcast qui a passé chez nous. Donc pour son triplé en 15 minutes, c'est quand même superbe. Ouais. Émilie Boulard, comme tu as dit, première cap, mais elle était super, elle était étonnante. Elle crevait l'écran, elle courait partout comme une gazelle. C'était franchement magnifique.
Oui, c'est vrai qu'on l'attendait. Elle était vachement encouragée aussi par toutes les autres joueuses, parce que quand elle l'a mis l'essai, c'était vraiment genre pendant tout le match, on s'attendait à le voir venir, et elle a vraiment tardé. Elle s'est laissée désirer pour son coup d'éclat.
C'est sûr. Le numéro 9 aussi, Bourdon, était en mode top chef. Elle nous a préparé un super premier mi-temps avec des caramels servis, vraiment sympa.
Moi, j'ai noté le meilleur pâtissier plutôt, alors, avec des caramels.
Ouais. J'ai le 12, Vernier, avec des plaquages défensifs, vraiment sublime, que Serge Betsen a noté sur Twitter, donc elle devrait être super contente. Et au plus, j'ai noté que notre banc, en fait, on est super fort, parce qu'il y a Tremeyer qui rentre, et aussi sur la deuxième ligne, il y avait Eiffel qui avait un très bon match, qui a été remplacé par NDI. Donc et après Sansu qui a remplacé Boulard, on a un banc qui est vraiment impressionnant. Bon, pour la première fois, moi je voulais donner des notes à notre équipe, donc je donne 9 sur 10 pour tout le monde, sauf Caroline Boujard. Je donne 10 sur 10, et là je dis bravo, bravo, bravo.
Évidemment,
Et il y avait beaucoup de Coupe d'Europe aussi, Charlie.
Ouais, il y avait beaucoup de beaux matchs. Alors, beaux matchs, tout est très relatif, mais on... samedi, il y a La Rochelle qui nous a mais vraiment régalé. C'était un match très, très beau à
Magnifique.
voir. Magnifique. Ils vont avoir fort à faire la semaine prochaine parce qu'ils vont être contre le Leinster, qui aussi a beaucoup impressionné dans son match. Le dimanche était un peu plus. Voilà, il y a eu Bordeaux Racing, qui était un peu dur à voir. Et le temps n'a pas aidé non plus notre Clermont-Toulouse, puisqu'il n'y a pas eu d'essai. C'était un match où ça s'est bien rentré dans la gueule et où il n'y a pas eu de belles envolées rugbystiques, quoi. Donc,
Ouais.
le spectacle était au rendez-vous samedi, un peu moins le dimanche. Mais bon, pour ceux qui aiment la pâtisserie et ses gros caramels, il y avait de quoi faire quand même. Mais voilà, quoi. On est très content de ne plus voir de clubs anglais qui ont tous disparu ce week-end et d'avoir pour la semaine prochaine trois clubs français sur les quatre derniers clubs en compétition, c'est très très beau. Trois clubs français et le Leinster, ça fait plaisir de voir les clubs français à ce niveau-là après la petite mésaventure de Toulon.
Voilà. Allez, nous allons tout de suite dans notre entretien avec Miguel Fernandez. Donc, Miguel est un agent sportif depuis plus de 20 ans et j'ai pensé que ça serait vraiment intéressant et d'explorer ce métier et ce monde que je connais pas de tout. Donc, aujourd'hui, il est agent sportif, notamment pour plusieurs joueurs sur notre équipe de France. Il est directeur aussi à CSM Sport et il est président des syndicats des agents sportifs, donc Interval. Il a aussi joué un peu au rugby, mais là, on va sauter directement dans la conversation parce que, en fait, il y a tellement de chose à dire, donc on rentre directement dans la corde à la discussion. Donc, c'est le rugby était avant d'être agent sportif, mais par contre, tu n'étais pas agent sportif, c'était pas ton premier travail en fait. Donc, c'était quoi le parti déclencheur de ce nouveau fonction, on va dire.
Alors, l'élément déclencheur, c'est que donc je jouais au rugby et j'avais une licence au stade français avec les anciens je m'entraînais régulièrement toutes les semaines là-bas et je croisais sur les terrains d'entraînement les joueurs, notamment les jeunes qui s'entraînaient le soir également, notamment cette génération de juniors, Mathieu Blin, Pierre Rabadan, Salim Tebani, Raphaël Poulain, enfin tous ceux qui étaient champions juniors en 99. Et en 99, justement, il y a une Coupe du Monde et il y a quelques matchs qui ont lieu en France. Et il y a un match qui a lieu à Bordeaux. Donc, moi, j'habite Paris. Il y a un match qui a lieu à Bordeaux. Et c'est un match commémoratif. On joue un match commémoratif en même temps que le match de la Coupe du Monde. Je crois que c'était Fidji contre le Canada, de mémoire. Et en fait, ce match commémoratif, c'est entre le stade bordelais et le stade français. Et il y a deux équipes de chaque club qui va jouer. C'est un, les juniors du stade bordelais contre les juniors du stade français, donc cette génération-là, et les anciens, les vieux, qui ont plus de 30 ans, etc. Un match plutôt sympa. Et ce match a lieu pour la commémoration du centenaire de la finale en 1899 entre le stade français et le stade bordelais. Donc, tu vois, c'est en mémoire de cette finale qui a eu lieu 100 ans avant, on va faire un match comme ça, sympa, une petite fête entre nous. Et donc, à l'époque, je prends le TGV à Paris avec toute l'équipe, les jeunes comme la mienne, et on est sur le trajet pendant les 3 heures à l'époque. Et dans le trajet, les gars me connaissent, ils savent que je suis dans le business. À l'époque, je travaille pour une banque. Enfin, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai travaillé dans une banque, dans le milieu de l'informatique, etc. Et ils savent que j'ai une formation de juriste. Et certains viennent me voir en me disant, tiens, tu sais, on me propose un contrat pro, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la différence entre ça et ça, le brut, les clauses, etc. Bon, moi, je leur donne mon avis comme ça, mais ça reste dans ma tête. Tu vois, ça reste dans ma tête. Et je me dis, tiens, c'est quand même, il y a peut-être un truc à faire. Tu vois, le rugby vient juste de passer professionnel. On est en 99. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon. Et quelques mois plus tard, dans le cadre de mon activité professionnelle, bon, je passe les détails, mais je ne suis pas super content de ce que je suis en train de faire. Et je me dis, écoute, tu as 32 ans, c'est peut-être… qu'est-ce que tu aimes faire ? T'aimes négocier ? T'aimes le sport ? Bon. Et dans le cadre de mon réseau, de mes amis, etc., on me présente un agent sportif qui s'appelle Pascal Forny. Donc, je vais le voir et je lui dis, voilà, je parle 5 langues, le rugby, je connais, négocier des contrats, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé à travailler. En revanche, je n'ai pas vraiment le réseau du rugby. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un, d'une aide, etc. Donc, ça dure un quart d'heure. Hein. C'est vraiment très, très court. Hein. Et je repars de là. Pascal me dit pas grand-chose. Et donc, je me dis, tu vois, je sors de chez lui. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais continuer à faire ce que je fais. Et puis, et trois semaines ou un mois plus tard, il me rappelle en me disant, écoute, je vais avoir besoin d'un coup de main. Si tu veux, on peut démarrer ensemble. Et je démarre comme ça. On démarre tous les deux. On est à la saison 2000-2001, je crois.
D'accord. Donc, c'est intéressant parce que tu es vraiment tout au début de ce parti ah oui. de rugby devient professionnel. Et en même temps, tu as déjà dit que tu avais déjà plusieurs casquettes. Moi j'imagine ce travail, je ne connais pas du tout, mais j'imagine qu'il y a énormément de casquettes. Il y a les casquettes un peu commerciales quand même, vendeurs, il y a les casquettes avocats, conseillers, chef de projet aussi. Dans tous ces casquettes, c'est lequel qui te branche le plus?
Alors, être agent sportif, c'est être le conseiller, le grand frère, l'avocat, l'ami. Parfois, on sert d'alibi aussi. ça, par contre, je ne peux pas le dire. Si un jour je dois écrire un bouquin, j'écrirai un bouquin, mais ce sera sous forme anonyme. Non, je plaisante. Mais donc, tu es un peu tout ça, en fait. Tu es un peu tout ça. Et tout me plaît. En fait, avec le temps, puisque ça fait 20 ans que je fais ce métier, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire une histoire. C'est de se dire que tu es à la genèse, tu vois, d'un garçon qui a 18-20 ans, tu discutes avec des clubs et puis tu construis quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, si tu veux, le mois de juin, pour moi, tous les week-ends, ils sont pris parce que je suis invité à des baptêmes, à des mariages, etc. Donc ça, c'est voilà, ça pour moi, c'est ma plus belle récompense.
Il y a deux questions que j'ai là-dedans, c'est cette idée-là de grand frère. Et est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Parce que grand frère, ça veut dire, moi je suis fils unique, donc je n'ai pas de grand frère, mais ça veut dire un peu le tonton. Mais c'est quoi exactement? Comment est-ce que tu remplis ce rôle de grand frère?
En fait, il faut savoir que en tant qu'agent sportif, tu entres dans l'intimité du joueur.
Ouais.
Et moi, j'ai l'intime conviction que les conseils ne peuvent être pertinents que si tu connais bien la personne. Mmh. Le sportif, enfin moi, je n'ai pas la prétention, quand je discute avec des entraîneurs ou avec des présidents, mais surtout avec des entraîneurs, je n'ai pas la prétention de leur dire, voilà, lui, il sait jouer comme ça, lui, ses qualités sportives, c'est ça, etc. Ils sont 10 fois plus qualifiés et compétents que moi pour pouvoir juger de ça. Moi, mon job, ce n'est pas de connaître le rugby, c'est de connaître l'homme.
Ah.
C'est comme ça que je définis. Je pense que la plus grande réussite, c'est quand tu es certain que l'intermédiation que tu fais te permet de mettre en relation deux personnes où tu sais que ça va matcher, où tu sais qu'il va y avoir un bon fit. Alors tu peux te tromper, hein, parce que bon, voilà. Donc il y a aussi une grande part de psychologie et de connaissance humaine.
Oui, il y a ce côté matchmaker aussi, c'est mettre les deux parties ensemble, que ça fonctionne bien. C'est une question qu'il faut que je pose la question, mais je trouve que c'est aujourd'hui, être agent sportif, c'est un peu glamour aussi. Il y a Jerry Maguire, il y a 10%, il y a le truc avec The Rock, Ballers et tout ça. Est-ce que c'est si glamour ou est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est glamour ou pas?
Agent sportif, c'est un métier rêvé, mais ce n'est pas un métier de rêve. dans le sens où faut s'imaginer que, enfin en tout cas la façon dont moi je souhaite le pratiquer, je mets beaucoup d'affect très souvent, et il faut savoir que tu as parfois la responsabilité de l'avenir d'une famille. Et moi j'ai 3 minutes de bonheur par semaine, hein. Le reste c'est faut avoir une capacité à pouvoir endurer les refus, les mauvaises nouvelles. Moi j'annonce plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles.
Ouais, ça c'est de bête chaud.
Ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en plus en France, on a un système. Alors je ne veux pas embêter les auditeurs avec ça, mais c'est très particulier parce que, bon, comme tout le monde aura remarqué, tu as un accent anglo-saxon, donc américain. En fait, en France, juridiquement parlant, nous sommes mandatés par les clubs. En fait, c'est les clubs qui nous font un contrat et qui nous disent voilà, je veux tel joueur.
Ouais.
Ce ne sont pas les joueurs, même si juridiquement on pourrait. Ce ne sont pas les joueurs ça c'est la pratique du rugby, qui payent les agents.
Okay.
Aux États-Unis, moi j'ai des collègues américains qui me disent, moi je suis payé par le joueur, comme un avocat en fait. Ouais. Mais culturellement en France, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça pourrait se passer, c'est pas, et pour être très clair, ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais culturellement en France, parce qu'on est des Latins, j'imagine, j'en sais rien. Mais c'est pas, tu vois, la relation est un peu différente. C'est-à-dire que moi, en fait, je fais bénéficier et aux joueurs et aux entraîneurs et au club mon réseau, et je sers d'intermédiation. Je suis un facilitateur. Je mets en relation, je suis un deal maker, je suis quelqu'un qui facilite l'intermédiation.
Mais qui vient d'abord dans un sens? Est-ce que c'est ton client, est-ce que c'est plutôt le joueur qui vient d'abord et après tu vas trouver le club, ou est-ce que c'est le club qui dit tiens, on a besoin de tel type de joueur?
Aujourd'hui, mes clients, ce sont les clubs.
D'accord.
C'est eux qui me paient.
Et comment tu trouves alors les joueurs?
Bah, parce qu'aujourd'hui, chacun a sa propre réputation dans ce milieu-là, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, CSM travaille absolument avec tous les clubs et ils sont
D'accord.
plutôt très bien vus. Donc, si tu veux, les joueurs me disent, bah, moi, je vous fais confiance pour me mettre en relation avec les clubs. Voilà. Juridiquement, hein, j'entends. Après, effectivement, il y a des joueurs qui nous font confiance depuis qu'ils ont 18 ans et ils sont en fin de carrière aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est quelque chose de très particulier, hein.
C'est intéressant parce qu'il y avait un moment où tu parlais de scout dans un sens où ça faisait une question que j'ai. Est-ce que c'est toi qui vas dénicher le nouveau pépite dans le rugby? Tu as dit bah non, c'est plutôt des clubs qui savent à ce niveau-là. Mais ma question dans ma tête, c'est de dire tiens, mais ok, mais le joueur, comment est-ce que c'est lui qui vient te taper sur la porte ou est-ce que c'est plutôt toi qui vas le chercher en fait?
Alors aujourd'hui, et c'est très prétentieux de le dire, j'ai la chance où c'est plus les joueurs qui viennent me voir que l'inverse. Mais ça, c'est très prétentieux, donc tu vas avoir des réactions horribles à mon égard une fois que j'ai dit ça, mais parce que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du rugby professionnel, etc., et que voilà, les gens me connaissent. Voilà.
C'est normal.
Ouais, mais c'est un peu des deux, hein. C'est souvent toi qui, alors soit par réseau, parce que bon, malgré tout, même si j'ai pas la prétention de connaître aussi bien le rugby qu'un Christophe Furios ou qu'un Fabien Galthié, loin de là. Bon, je connais un petit peu le rugby quand même, et je suis au moins capable de savoir, voilà, de pouvoir juger le niveau d'un joueur et surtout de voir à quel niveau il peut évoluer, parce que c'est toujours pareil. C'est un sport collectif, donc par définition. C'est toujours assez compliqué, de pouvoir transposer quand tu prends un joueur vers quel niveau il peut évoluer, quoi. C'est tout, c'est difficile. Parce que même les entraîneurs se trompent. Tu as les entraîneurs qui disent, ouais, ce joueur-là, il passera jamais le cap, il sera jamais en top 14. Et puis tu t'aperçois que le type, non seulement il est en top 14, mais il est en équipe de France. Ça ne veut pas dire que l'entraîneur était mauvais, ça veut dire qu'à ce moment-là, avec tous les critères objectifs d'évaluation qu'il avait, voilà, le joueur n'avait pas le profil pour avoir ce niveau-là. Et puis des fois, tu as des facteurs déclenchants chez les joueurs, une hygiène de vie, un aspect psychologique, etc. Donc, voilà, c'est multifactoriel. On travaille sur de l'humain, donc c'est très compliqué. Il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de critères où tu remplis, où tu sais, tu dis, voilà, ça c'est fait, numéro un c'est fait, numéro deux c'est... Non, on n'est que dans l'humain, quoi.
C'est très intéressant parce que dans ma tête, j'aurais dit, bah, tiens, c'est vraiment dans le contrat, un peu dans le deal, en fait. Parce que je sais que, bah, je pense que dans cette industrie, c'est quand même assez compétitif, je l'imagine. Hein. On peut très vite taper the best agent et on voit tout un chiffrage et ça va très haut, en fait, mondialement. J'étais assez surpris en faisant un peu de recherche. Mais avant d'aller là, en fait, je suis intéressé dans cette idée de win-win. En fait, c'est un win-win-win. Dans ma tête, au début, c'était toi qui travaille plutôt pour le joueur pour trouver le meilleur contrat avec le club, mais en fait finalement c'est un win-win-win entre le club, le joueur et toi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, c'est une connexion de trois parties, en fait. Et c'est ce qui rend la version française de l'agent sportif du rugby hyper intéressante.
Et atypique.
Ouais. Mais c'est très lié à la mentalité française, je pense. Même si ça évolue, hein, et je pense que demain, c'est plus difficile, si tu veux, pour un joueur de payer son agent. Il considère que c'est au club de le faire. Voilà, alors toi qui es américain, ça peut te choquer, mais
Mais oui, c'est marrant parce que si on parle aujourd'hui, des jeunes joueurs de basket, par exemple, ils ont 19 ans, ils sortent, ils gagnent, je sais pas, 10 millions, 20 millions de dollars par an. Et en fait, ils sont un brand déjà à 19 ans. Et je trouve qu'en rugby, c'est assez marrant parce que c'est, même au foot américain, bah, ok, foot américain, ils vont être quoi, 20 ans quand ils commencent à jouer. Mais je trouve que rugby, on est junior jusqu'à assez tard, en fait, jusqu'à 21, 22 ans. On est jeune joueur à 21, 22 ans. Ou basket, NBA, on a déjà, ou même foot, hein, on a déjà 3, 4 ans d'expérience de très haut niveau. Donc, et même ces joueurs-là, ils ont déjà cet aspect de brand. Est-ce qu'on voit ça, on commence à voir ça, ce branding des joueurs en rugby?
Pour répondre à ta question, non, ça, c'est pas une tendance d'être une marque en fait. Tu vois, ça vient plutôt sur le tard. Et d'ailleurs, tu verras qu'il y a très peu de communication commerciale, publicitaire sur des joueurs de rugby. Il y en a très très peu. Parce que je pense que le rugby, c'est avant tout un collectif. Donc, on supporte difficilement la mise en avant individuelle. Mais ça, c'est culturel.
Oui.
Et puis, il faut savoir, si on veut faire un peu d'histoire sur le rugby, il a été. Bon, il y a la légende et le mythe de Webb Ellis qui a pris le ballon, etc., au collège rugby. Mais la réalité, les faits, c'est que le rugby a été créé par un monsieur qui s'appelle Thomas Arnold, qui était directeur de proviseur du collège de rugby en Angleterre. Et quand il a créé le rugby, dans un contexte qui était économique difficile, on est dans le développement industriel, la jeunesse est très violente, etc., il prend le rugby comme un outil éducationnel. C'est-à-dire qu'il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour éduquer ces jeunes-là? Et il entend parler de Webb Ellis, etc., de cette légende, et il se dit, tiens, ça peut être une idée. Le football existe déjà, mais le rugby, non. Et le rugby, si tu veux, a permis à cette jeunesse d'avoir des confrontations plutôt violentes, mais dans le respect des règles. Et lui, il y a amené tout un côté éducationnel, respect des règles, respect de l'adversaire, réfléchir, parce que Françoise Sagan disait qu'elle aimait beaucoup le rugby parce que c'était un sport intelligent. Je pense que c'est un sport intelligent. Quand tu expliques déjà à des enfants qu'il faut avancer en faisant des passes en arrière, déjà, il faut réfléchir. Tu vois, c'est pas... Donc, il y a cet aspect-là. Et le rugby est un outil éducationnel. Et pendant très longtemps, le fait que ce soit amateur, c'est parce que c'était aussi un ascenseur social. C'est-à-dire que allez, on était officiellement professionnel en 95, en France 98, mais jusque-là, si tu veux, le rugby, tu jouais, et c'est pour ça qu'il y avait des petits villages qui avaient des belles équipes de rugby, mais on utilisait le rugby comme un ascenseur social. C'est-à-dire que le gars, il jouait dans l'équipe de rugby et en même temps il avait un job à la mairie, il avait des facilités pour ouvrir un restaurant, etc., etc. Sans oublier que le rugby est un sport à la base universitaire. D'ailleurs, aux États-Unis, les Ivy League on pratique le rugby comme l'aviron, tu vois, ce côté un peu anglo-saxon, enfin anglais pour
Ouais,
le
c'est
terme.
sûr. Ouais.
Et c'est très le rugby est dans ce contexte-là en fait. Donc c'est très intéressant, et c'est pour ça que l'individualisation du rugby, c'est pas encore, on n'y est pas encore. Ça arrivera peut-être, mais on n'est pas dans une tendance type football, soccer,
Ouais. Ouais, mais ce qui est
pour
pas
être
une mauvaise
européen.
chose non plus.
Voilà, mais il faut bien comprendre que le rugby à l'origine c'est un outil d'éducation. Ça a été créé par Monsieur Arnold, qui ensuite transmis ça à des jeunes qui sont partis à Oxford, Cambridge, et qui sont partis dans l'Empire britannique, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, etc., etc.
Tu avais parlé des jeunes joueurs et parfois des gens qui dépassent un certain cap qui va beaucoup plus loin que les coachs ou toi-même aurais pensé. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un joueur qui t'a vraiment impressionné, pas forcément par son physique, mais plutôt par son caractère?
Alors, moi, je pars du principe que l'élément qui fait la différence entre deux joueurs, mais c'est vrai dans tous les sports, entre deux sportifs, c'est la tête. C'est le
Je trouve ça
caractère.
super intéressant, ouais.
C'est une évidence. Moi qui côtoie des sportifs de très haut niveau depuis 20 ans, la différence, elle se fait là, dans le crâne, dans la tête. Ça, c'est une évidence. Parce qu'il faut avoir un esprit sacrificiel, parce que quand tu te lèves tous les matins, c'est pour aller gagner ta place. Et donc, forcément, si tu n'es pas câblé pour faire ça, Tu peux avoir la plus belle passe du monde, le plus beau jeu au pied du monde, courir très très vite. Si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Tu arriveras à un certain niveau, mais pour être vraiment au-dessus, voilà, c'est vraiment comme on dit dans le rugby, c'est le bulbe. C'est le bulbe. C'est vraiment la tête. Et ça, c'est vrai dans tous les sports. Je pense que c'est une évidence que c'est vraiment dans tous les sports. Donc, c'est pour ça aussi que ça explique parfois que quand tu vois un jeune joueur à une certaine époque de sa vie, certes, il a des qualités, mais tu sens pas que le gars va franchir le cap. Et puis, pour des raisons complètement extérieures ou pas, ou de maturité, il y a le clic qui se fait dans la mentalité du joueur. Et là, il devient juste hallucinant. J'ai un exemple, Damien Penaud. Alors, il se trouve que je connaissais déjà son papa. Donc, tu vois, c'est une vieille histoire. Mais Damien, je le connais depuis qu'il a 10 ans. Et j'ai jamais imaginé qu'il serait un sportif de haut niveau. C'est un garçon hyperactif, d'une gentillesse, etc. Incroyable. À telle enseigne, c'est que même quand il était au centre de formation de Brive, les mecs, ils hésitaient, quoi. Ils se disaient, je ne suis pas sûr qu'il passe le niveau, etc. etc. Et puis, voilà, quand il est arrivé à Clermont, quelque chose s'est passé et puis il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, quoi. À l'inverse d'un Antoine Dupont, tu sais depuis qu'il a 14 ans qu'il est fait pour ça.
Ouais, ok.
C'est juste une machine de guerre, un garçon extrêmement intelligent avec un mental mais hallucinant. Voilà, c'est ça qui est rigolo parce que effectivement les carrières évoluent parce qu'encore une fois on ne travaille que sur l'humain.
Ouais, c'est super intéressant. Quand tu travailles avec un club, par exemple, tu dis, ok, c'est les clubs qui te payent, mais c'est le joueur que tu es vraiment en confiance avec les joueurs aussi, parce que c'est leur avenir, en fait, que tu as d'entrer les mains. Mais en fait, c'est avec qui que tu négocies, en fait, dans un club? C'est avec le coach?
Alors, il y a deux niveaux de discussion. Il y a la discussion, on va dire, un peu technique, enfin, même complètement technique, et de besoins exprimés par le staff technique, donc l'entraîneur, le manager, etc. Et généralement, les négociations financières se font avec soit le président, soit le directeur général, suivant l'organisation du club. Donc, tu as deux niveaux de discussion, en fait.
D'accord. Et est-ce que tu as droit, parce que tu connais, donc tu dis avec CSM, tu travailles avec tous les clubs, est-ce que tu as droit d'être fan, en fait, d'un club en particulier?
Non, non. Non.
T'habites à Bordeaux quand même, non? T'as pas un petit
truc à Bordeaux et j'ai porté le maillot du Stade français. Donc t'imagines. Ouais.
C'est pas droit alors.
Mais tu sais, c'est pour l'anecdote, moi il m'est arrivé plusieurs fois d'assister à des matchs, d'être dans les tribunes et d'avoir les deux présidents l'un à droite, l'un à gauche. Et moi j'applaudis à chaque fois.
Bien joué.
J'applaudis à chaque fois et je suis content, etc. Mais non, j'ai pas de préférence. Après, il y a une réalité qui est purement business. Il y a des clubs avec lesquels c'est plus facile de travailler, avec lesquels tu es plus en confiance. Mais ça, c'est vrai dans toutes les industries.
Oui, c'est des relations personnelles aussi, ouais.
Ouais, c'est pas une préférence affective, c'est juste une facilité à travailler avec une organisation. Il y a des organisations pour lesquelles c'est plus compliqué de travailler parce qu'ils sont plus méfiants à l'égard de ton métier, parce qu'ils ne te connaissent pas bien, etc. Il y en a d'autres avec qui c'est plus simple, c'est plus fluide.
En fait, donc on a parlé un peu de joueurs, on a parlé aussi un peu de clubs. Et en fait, ce que je trouve assez marrant, c'est que quand je compare à mon expérience américaine, en fait, nous, on connaît, on va dire, les salaires de tous les joueurs dans tous les sports, en gros. C'est hyper connu. Ces gens, en fait, c'est un parti de discussion. Si tu es fan du Lakers, bah, tu sais très bien que LeBron, il gagne 37 millions. Après, tu ajoutes Anthony Davis, mais après, tu n'as plus de sous pour avoir d'autres joueurs. Et foot américain, c'est le même truc. On a le salary cap et tout. Mais attends, si on donne à Tom Brady... je sais pas, 15 millions d'euros par an, on n'a plus rien pour payer des autres. Et c'est vraiment en partie intégré des discussions en tant que fan. Et est-ce que ce contrat, c'est un beau contrat ou pas? Et je trouve qu'en rugby, bah, je connais rien, en fait, sur ce système de contrat, combien ils gagnent, c'est quoi le montant global. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va dans cette direction? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas.
Alors, ça, c'est très intéressant parce que là, tu parles avec ta culture américaine. En France, mais quelle que soit l'industrie, on ne parle jamais de salaire. Et ça, c'est notre éducation judéo-chrétienne, peut-être, tu vois. Ouais. On ne parle jamais de salaire. Moi, je n'ai aucun problème pour parler de salaire. C'est mon métier, je n'ai aucun problème. Mais c'est vrai que le faire publiquement, de dire voilà, tel. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, si tu vas voir la presse spécialisée dans le sport, ils font très rarement des dossiers comme ça liés à des salaires, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très accepté dans notre culture. Donc, on ne parle pas d'argent. Maintenant, moi, je vais t'en parler librement, comme ça, tu auras une partie de ta réponse. Pour que les gens comprennent à peu près, il faut savoir que en Pro D2, le salaire moyen, c'est à peu près 5 000 euros net. Top 14, on est plutôt aux alentours de 14-15 000 euros net. Alors, je parle de ça avant, évidemment, la pandémie Covid, qui a mis beaucoup de difficultés pour les clubs, mais c'est juste pour donner une idée. Ce qui veut dire une chose, c'est que aujourd'hui, un joueur de rugby ne gagnera jamais assez d'argent pour s'arrêter de travailler à la fin de sa carrière.
C'est un bel salaire, mais c'est pas ça dure pas tout le temps non plus.
C'est beaucoup de salaire, hein. Attends, 15 000 euros, c'est un énorme salaire, hein, dans la vie de tous les jours, évidemment. Mais la moyenne aujourd'hui des carrières, c'est 8 ans. Ça s'allonge un petit peu maintenant, mais même si on met 10 ans, ok, mais tu seras obligé de travailler derrière. Alors, tu peux être intelligent et bien conseiller et investir dans l'immobilier, dans les choses, etc. Mais ce qui est fondamental, c'est que quand tu démarres une carrière de joueur de rugby professionnel aujourd'hui, il faut que tu penses à ta reconversion.
Comment est-ce que tu peux aider toi dans ton rôle les joueurs dans cette sortie de carrière aussi?
Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect psychologique, puisque arrêter sa carrière, c'est comme une petite mort. C'est-à-dire que tu es dans la lumière et du jour au lendemain, on éteint la lumière. Il y a un nombre incroyable de divorces. Alors, c'est les sportifs professionnels en général, hein, pas que le rugby, hein, évidemment, mais dans les sportifs professionnels, il y a un nombre important de divorces qui suivent les 3 ans, qui suivent les 3 ans après l'arrêt de carrière. C'est assez hallucinant. Donc, tu as cet accompagnement-là où chaque sportif réagit avec son vécu, etc. Et puis, moi, je sensibilise depuis le plus jeune âge et les clubs et les sportifs à réfléchir à leur reconversion. Et c'est l'intérêt aussi en France de ce qu'on appelle les centres de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres de formation, ils sont gérés par le ministère de l'Éducation. Ce qui implique l'obligation pour les centres de formation de former, d'un point de vue académique, les sportifs.
Oui, t'es pas juste sur le sport en elle-même, avec quelque chose d'autre.
Exactement, exactement. Et l'évaluation, si tu veux, aujourd'hui, d'un centre de formation se fait sur principalement deux critères. C'est évidemment l'évaluation sportive, mais également l'évaluation académique. C'est-à-dire que là, il y a un classement qui est sorti là, des centres de formation du Top 14 et de la Pro D2. Et l'étude est faite par la Ligue, hein, nationale de rugby, mettait en avant effectivement ces critères-là. Et les critères sportifs, ce n'est, c'est, enfin, les paramètres d'évaluation, c'est nombre de joueurs qui basculent du centre de formation à pro, le nombre de joueurs de centre de formation qui ont eu des sélections chez les jeunes, tu vois, les U20, les U18, etc. Et ça compte pour 50% de l'évaluation. Et ensuite, le reste, c'est aussi l'évaluation académique. Les joueurs diplômés, quel type d'études ou quel type de travail. Parce qu'on parle souvent d'études en France, tu vois, universitaires ou autres, mais moi, je suis assez favorable à ce que dans les centres de formation, on puisse apprendre à un jeune joueur de rugby à devenir plombier ou menuisier. Parce que d'abord, il gagnera plus sa vie que courtier en assurance, à mon avis. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais voilà. Donc, voilà, il faut sensibiliser toujours. Ensuite, il y a des organisations comme Prova, le syndicat des joueurs. Les clubs aussi aident parfois à la reconversion. Et c'est d'ailleurs, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que mettre en avant une politique de reconversion pour ces joueurs, quand tu es un club, c'est aussi une plus-value pour pouvoir attirer des joueurs.
Oui, c'est sûr.
Quand tu vas discuter avec un joueur de 25 ans et que tu dis, voilà, moi, effectivement, je ne suis pas le club le plus riche, donc je ne pourrais pas batailler pour t'offrir un contrat aussi élevé que d'autres. En revanche, moi, je vais travailler avec toi pour t'assurer ton après-carrière. C'est un discours qui est très pertinent. C'est un discours qui est très pertinent. Ça peut être une vraie stratégie, hein, pour la part des clubs.
Je trouve qu'en France, on a beaucoup plus de joueurs internationaux aussi qui viennent ici, des Anglo-Saxons, des Nouveaux-Zélandais qui arrivent et tout, par rapport à avant où je trouve qu'il y avait beaucoup plus de Français qui partaient en Angleterre, où c'est plus vraiment le cas depuis quoi, 10 ans, depuis Chabal, en fait, c'est la dernière grande, j'ai l'impression, c'est la dernière qui allait là-bas. Vous avez travaillé ensemble, non?
Oui, absolument, j'ai eu ce bonheur-là. Ouais.
C'était avant ou après la barbe?
C'était avant.
Bravo.
C'était avant. Mais il faut que je fasse attention parce qu'après on va dire que c'est que tout ça c'était programmé, marketé, etc. L'histoire de la barbe et des cheveux longs, et en fait pas du tout. C'est devenu c'est un pari entre lui et moi, parce que moi à l'époque j'avais les cheveux longs, j'avais une barbe un peu plus longue.
Ouais. Ok.
Et lui, il a les cheveux courts, etc. Et puis, il s'est laissé pousser la barbe. Et je trouvais ça sympa, lui aussi. Et puis, il s'est rendu compte, après, que c'était aussi un élément différenciateur. Ouais. Mais parce qu'il aime ça, hein. Il aime avoir les cheveux longs et la barbe. Hein. Il n'y a pas de calcul, si tu veux. C'est la conjonction des deux choses. Donc, je trouve ça plutôt rigolo, quoi. Plutôt rigolo.
Moi aussi, j'aime les barbes. Moi, je ne peux rien dire.
Alors, c'est vrai qu'il y a il y a de plus en plus de joueurs internationaux. Alors, ça, c'est un ressenti parce que ce n'est pas la réalité.
Ah, ok.
Statistiquement, il y a de moins en moins de joueurs étrangers parce que réglementairement, depuis 10 ans, je pense, je n'ai plus la date en tête, mais tu sais, il y a une réglementation, ce qu'on a appelé les GIF, c'est-à-dire les joueurs issus de la formation française. Alors, ce n'est pas une réglementation liée à une nationalité, parce que ça, c'est interdit par la loi. Tu ne peux pas faire une discrimination liée à une nationalité en France, en droit français. Mais c'est lié à la formation, et c'est quelque part, c'est pour récompenser la formation que l'on donne priorité à ces joueurs-là. Donc, tu as des joueurs sud-africains, fidjiens, qui ont le statut GIF parce qu'ils sont venus très jeunes en France et qui peuvent, dans les centres de formation, et ils peuvent bénéficier de ça. D'ailleurs, pour que les gens comprennent bien, le statut de GIF, donc de joueur issu de la formation française, s'acquiert de deux façons. Soit tu as passé 3 ans dans un centre de formation, soit tu as 5 ans de licencié auprès de la Fédération française de rugby. Typiquement, les frères Armitage, Dylan et Stephen, eux ont le statut GIF parce que leur papa, professionnellement, était à Nice à l'époque, et ils ont joué au rugby très jeune, à 10 ans, pendant 5 ans, dans un club affilié à la Fédération française. Donc, ils ont le statut GIF, tu vois, même s'ils sont partis à l'étranger après. Et tu as des joueurs comme Raka, je crois, qui a fait 3 ans de centre de formation à Clermont-Ferrand. Donc, il a le statut GIF. Et à l'inverse, c'est là où peut-être la limite du système, tu as des joueurs français internationaux qui n'ont pas le statut GIF. Par exemple, Jérôme Thion, immense joueur, deuxième ligne de Biarritz, etc., Il n'a pas le statut GIF parce que son centre de formation, lui, ce n'était pas du rugby, c'était du basket.
Ah oui.
Il a joué au basket et après, il a basculé. Il devait avoir 21 ou 22 ans, je pense. Donc, il n'avait pas fait ses 3 ans. Donc, il n'était pas qualifiable comme… Et pourtant, il joue pour l'équipe de France, etc. etc.
Ouais, c'est fou, ouais.
Et demain, il peut y avoir un autre cas avec un joueur qui est très jeune, qui a signé au Stade Toulousain, qui s'appelle Thibaut Flamand, qui, lui, a vécu en Belgique parce que son père… travaille là-bas, donc il n'a jamais joué pour un club français, il est trop vieux pour être dans un centre de formation, et si demain il joue pour l'équipe de France, ben, il n'aura pas le statut GIF.
Interesting.
Et là, à Toulouse, il n'a pas le statut GIF.
Et là, on a parlé un peu des joueurs, on a parlé un peu des équipes aussi, et après, j'imagine le troisième groupe dont on travaille aussi, c'est la relation avec les sponsors. Et est-ce que tu peux partager ou donner un exemple pour toi, un de tes meilleurs projets avec un sponsor?
Alors, meilleur, tout est relatif, mais celui qui m'a le plus amusé, c'est la campagne PokerStars avec Sébastien Chaval.
Ok.
Je ne sais pas si tu te souviens, il avait fait toute une série de pubs où il était déguisé en différents personnages, etc.
Oui, ok.
Voilà. En plus, c'est un joueur de poker, Sébastien Chaval. Il aime jouer au poker. J'ai joué plusieurs fois avec lui au poker. Et voilà, c'était une campagne qui était assez drôle. Il y a eu Après, c'est très formaté dans le rugby, hein. Généralement, c'est le sponsor, c'est l'équipementier, Adidas, Nike, Reebok, Puma, tu vois, c'est très formaté, donc il n'y a pas vraiment de grande campagne là-dessus. Mais...
Ouais, ouais. Pour que, en fait, pour ton métier, yeah, et pour le monde ouais. de rugby et tout ça, il faut que le marché, entre guillemets, bon, j'ai fait mes études un peu dans le marketing, donc pour que ça fonctionne pour tout le monde, il faut que le marché grandisse, en fait. Il faut qu'il y ait ouais. plus de plus grand marché. J'ai fait un entretien avec Amric Marshall, qui était ancien journaliste à l'équipe. Il disait quand même, ça reste un peu un sport régional en France, presque. Vraiment dans le sud, pas beaucoup dans le nord. Il n'y a pas d'équipe à Lille, ouais, il y a des grandes sûr. Villes où il n'y a pas d'équipe. Et pour toi, en fait, ça va t'aider, toi aussi. Qu'est-ce que le rugby a besoin de faire aujourd'hui pour un peu augmenter, on va dire? Pour grandir.
Alors, déjà, pour illustrer ce que tu viens de dire, comme quoi c'est un sport régional, je vais parler à une jeune génération qui va vite comprendre et qui va vite comprendre qu'effectivement, le rugby est un sport régional. Les jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo de rugby qui n'est absolument pas développé. Pourquoi? Parce que la population qui joue au rugby, elle est minime. Donc, l'investissement fait par le développeur est beaucoup trop cher par rapport au retour, à l'inverse du football américain, du basket, du baseball, etc., où la population est immense. Donc ça, c'est pour bien comprendre que c'est vraiment un sport régional. Bien comprendre aussi que si tu veux être professionnel de joueur de rugby, il y a deux endroits, hein. C'est la France et le Royaume-Uni, hein. En Europe, hein, je parle. Donc tu vois, c'est très limité, à l'instar du football, où tu peux être professionnel en Belgique, en Suisse, en Argentine, aux États-Unis, etc., etc. Bon, donc on est tous d'accord. Moi, j'ai l'intime conviction que le rugby aujourd'hui doit avoir deux axes de développement. Un axe de développement géographique. Alors, d'un point de vue territoire, en France, mais pas que. On peut parler de l'Europe. Faut faire venir des Allemands, faut faire venir des Belges, faut faire venir des Espagnols, des Tchèques, des Russes, etc. Même si ça existe, les fédérations existent, mais il faut développer de plus en plus de confrontations, si tu veux, entre le très haut niveau des six nations et ces pays-là. Ça arrive, mais ça va prendre du temps. Et je pense qu'un des éléments qui va développer le rugby à l'international, c'est le rugby à 7.
Ah, ok.
Le rugby à 7, c'est vraiment l'outil qui va permettre de développer le rugby sur la planète. J'en veux pour exemple, alors ça va te concerner en tant que citoyen américain, les Américains n'ont jamais été aussi forts au rugby à 7 depuis que le rugby à 7 est devenu olympique.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'il y a une médaille à gagner, il y a un pays à défendre, et là tu mets tous les moyens.
Oui.
Et on oublie que les seuls champions olympiques du rugby, ce sont les Américains.
Ah bon?
Oui. Ils ont gagné en 1920. Tu ne savais pas?
Ah oui.
En 1920 à 1924. C'est eux qui ont gagné. À l'époque, le rugby à 15 était olympique. Et les deux fois, en finale contre la France, ils ont gagné et ils sont champions olympiques.
Oui, c'est vrai, il y avait une grande histoire, c'était à Colombes, il me semble, où j'habitais, il y avait grosse bagarre, en fait, finalement, c'est pour ça que le
rugby est plus olympique après.
Ils ont dit non, on arrête ça, parce que c'est qu'un bagarre général, quoi. Oui, c'est vrai.
Donc, effectivement, à l'échelon planétaire, il y a développé les échanges entre les différentes fédérations et organisé des compétitions pour faire monter le niveau des Allemands, des Belges, des Géorgiens, même s'ils existent déjà, attention, hein, mais tu vois, pour qu'il y ait une vraie émulation, pareil en Amérique du Sud, pareil en Afrique, etc., etc. Et après, si on regarde un côté franco-français, quand tu regardes la géographie des clubs, on est très, très sudiste.
Oui.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que fait la fédération, hein, ou la Ligue, il faut effectivement développer culturellement le rugby dans des régions où on n'existe pas. Donc, effectivement, aider le développement, le rugby. Alors, tu vois, il y a le projet de Vannes qui est super intéressant. Il y a eu un moment Strasbourg, il y a eu un moment Lille, mais ça n'a pas encore pris. Donc, il faut, à mon avis, continuer là-dessus. Et un deuxième élément, alors ça, c'est vraiment pour développer le rugby, mais il y a un deuxième élément qui s'adresse au public, c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui au rugby pour faire en sorte que ma fille et mon épouse regardent un match de rugby à la télé ou aillent dans les stades.
Oui.
Parce qu'on est très consanguin. Aujourd'hui, les fans de rugby, tu les as déjà. Tu n'en auras pas plus. Ils sont tous là. Donc, il faut aller gagner des parts de marché sur le foot, sur le hand, sur le basket, sur je ne sais pas quoi, le judo, tout ce que tu veux.
Ouais.
Et ça, c'est une vraie réflexion et un vrai travail en profondeur à avoir.
Ça me fait penser à deux choses. Un, c'est cette histoire d'avoir un autre marché. Je sais que les États-Unis commencent tout juste avec le Major League Rugby, mais on commence à voir des grands noms. Quand même, Adam Ashley Cooper, bon, il y avait Bastero, il y a Manono, maintenant il y a Matt Gito qui a signé très récemment aussi. Donc, c'est, ouais. commence d'avoir des grands noms, mais ça peut être aussi un soupape, on va dire, pour des gens d'aller jouer aux États-Unis au rugby. Je trouve ça assez chouette. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner, par contre, la MLR?
Alors, pour connaître un peu le sport américain en général, ça ne fonctionnera que le jour où le rugby sera diffusé sur un network. Aujourd'hui, tu as 4 saisons aux États-Unis, hein, tu as le hockey, le baseball, le basket et le foot. Foot US. Ouais. C'est quatre monstres qui mangent tout. Donc, il faut trouver une place médiatique dans l'offre du sport aux États-Unis. Et c'est difficile. Après, j'ai l'intime conviction que le rugby correspond bien à la mentalité, US. Ça, c'est ma conviction.
Ouais. Et moi, je suis convaincu avec tous les athlètes qui arrêtent le foot américain à 18 ans après le lycée ou après, même après l'université, qui se transformaient en rugbyman. On serait juste fou, quoi. Parce qu'il y a une telle masse d'athlètes costauds qui va vite que je pense que ça, ouais. on devrait
c'est
réussir.
C'est un de nos projets, ça. En tant que CSM, on travaille beaucoup là-dessus.
Ah, bah chouette.
De faire revenir. Alors, pas forcément sur le 15. On pense surtout aux joueurs de football américain qui ne sont pas dans la draft, parce que voilà, ils ne sont pas draftés. Plutôt dans un premier temps dans le 13, qui correspond peut-être plus facilement à une adaptation, etc. Mais c'est quelque chose auquel on pense forcément.
Ouais, ouais un peu moins. Moins technique. Ah, c'est intéressant, ouais. ça. Moi, j'ai pas mal de questions là, mais je reviens sur ce côté de sponsor, en fait. Est-ce qu'il y avait, on a parlé de ton coup de succès là avec le Poker Stars, est-ce qu'il y avait un exemple d'un projet que tu as dit non, celle-là, je laisse passer?
Ah, mais je peux pas le dire.
Non, oui, c'est vrai. je coupe celle-là alors.
Je peux pas le dire. Mais oui, il y a forcément, il y a des projets auxquels on peut pas faire parce que ça correspondait pas ni à l'image de l'athlète ou voilà et que c'était mais j'ai eu des propositions assez bizarres ouais, des fois.
Et oui, je voulais dire par rapport à l'FM, moi personnellement, je suis convaincu. Un des premiers podcasts que j'ai fait, c'était sur la Coupe du Monde de foot féminine. J'ai fait ça avec mon fils. Et je trouve ça chouette que le foot féminin, parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est plus connu que le foot masculin. Et je trouvais ça chouette qu'on commence à voir ça à la télé et tout. Et je trouve ça aussi chouette qu'on commence à voir le destination féminin aussi. Et est-ce que tu penses que d'ici 10 ans, est-ce que tu penses que le foot féminin va commencer à être un parti où on aura plus de femmes spectateurs aussi?
Alors, femmes spectateurs, ça, j'en suis convaincu. Est-ce que le côté sportif du sport féminin, oui, ça va aller avec la génération. Je pense que les nouvelles générations, je ne suis pas sûr que dans les années 60, 70 ou 80, voir un match de rugby féminin, c'était quelque chose, de par les mentalités, parce que les gens évoluent, était quelque chose de forcément accepté. Je ne sais pas. Je pense, aujourd'hui, ça l'est sans aucun problème. Après, c'est toujours une question de moyens et d'organisation. Il y a un championnat de France de rugby féminin, il joue avec ses moyens. C'est souvent les gros clubs. Ça démarre un peu comme dans le foot en France. Hein. C'est souvent les gros clubs qui ont une section féminine, etc. Après, c'est toujours pareil. C'est une question de nombre de licenciés, de moyens que tu mets pour l'organiser. Oui, moi, moi, pour avoir vu des matchs de rugby féminin, mais ça a son charme aussi, c'est très propre. C'est comme le football, tu regardes un match de football féminin, c'est propre, quoi. C'est agréable à voir. Après, tu ne peux pas te passer de 50% de la population mondiale, quoi.
Oui, c'est sûr. Et si, est-ce qu'il y a un sport futur, que peut-être pas le rugby, peut-être pas un sport qu'on a nommé aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sport futur qui peut percer bientôt? Ou est-ce que CSM commence à dire tiens, celle-là, il faut qu'on regarde?
Alors, il y a. En fait, le sport de demain, mais c'est déjà enclenché, hein, donc j'enfonce une poisse ouverte, c'est le e-sport.
Ouais.
C'est le e-sport qui génère des millions et qui touche de manière transgénérationnelle presque maintenant. Donc effectivement, le e-sport prend une part très importante d'un point de vue purement business Alors, est-ce que le e-sport, c'est du sport, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, après, des sports, pour moi, si on veut rester dans le côté rugby, je crois très fortement au développement du 7. Et je pense que demain, il faudrait, c'est déjà un peu le cas, bon là c'est un peu particulier dans cette période pandémique, mais tu vois, créer un championnat de club. Moi j'avais même imaginé, si tu veux, de dire que avant la plus grande affiche du top 14, qui se joue le samedi à 21h, eh bien, la journée qui précède, tu vois, tu commences à 10h du matin, tu fais toute une journée du championnat à 7, où tu as tous les clubs qui arrivent. Parce que comme c'est des formats très courts, voilà, je pense que le 7, d'abord, est utile pour le rugby à 15, dans le développement personnel et technique du joueur, tout simplement. En France, on n'a pas beaucoup appuyé sur le 7, à l'instar des Néo-Zélandais, ou tu vois. Faut savoir que les Néo-Zélandais, ça joue à 7 tout le temps, quoi.
Ouais.
Les joueurs du 15, les stars du 15 ont quasiment tous commencé par le 7.
Oui, donc pour finir, est-ce que tu penses que tu peux utiliser ton influence dans ce métier, dans l'industrie de rugby, pour expliquer aux joueurs que, en fait, le mulet, le coupe de cheveux là, affreux, que ça va leur coûter des sous, qu'ils arrêtent ça, en fait. Vous pouvez faire ça pour nous?
Alors, non seulement je peux le faire, mais je peux inciter d'autres joueurs à le faire. Faut lancer notre mode. Faut lancer notre mode, mais pas la coupe du mulet, ça c'est sûr. Je m'y engage auprès de tes auditeurs et auprès de toi.
Super. Et est-ce qu'à 1m87, 116 kilos aujourd'hui, est-ce que j'ai toutes mes chances dans le Major League Rugby? Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, sur le papier, 1m87, 116, tu m'as dit?
Ouais.
Ouais, un bon pilier gauche, intéressant. Bon pilier gauche.
47 ans. Bon,
là, ça va être un peu plus compliqué. Mais non, tu as le gabarit, effectivement. Mais tu as joué au football américain, il me semble. Donc,
oui, exact.
Ouais. Tu jouais quoi? Tu jouais tackle ou…
O-line. Mostly tackle.
Ouais. Non, mais tu peux. Tu peux.
Deux dernières questions. Nous, en pacte potes, donc en fait, on est des amis qui parlent de rugby. Est-ce que tu avais des clients qui sont devenus amis aussi ou qui sont devenus tes potes?
Oui, bien sûr. Ouais. C'est ma plus grande fierté d'ailleurs. Enfin, fierté, je n'ai pas à être fier de ça, mais je veux dire, ça s'est fait assez naturellement. Oui, moi, je suis devenu très, très proche de pas mal de joueurs que j'ai croisés dans le milieu du rugby. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. La liste est relativement longue, donc je ne vais pas faire mon prétentieux, mais je suis très proche. Alors, des fois, c'est générationnel, tu vois, des joueurs qui finissaient leur carrière comme moi, je commençais la mienne dans le rugby et avec qui j'ai bien accroché, tu vois, Alain Penaud, par exemple. Mais après, tu vois, des gens qui ont basculé comme entraîneur, avec qui je suis très proche, Xavier Garbajosa, voilà, c'est la relation va parfois, encore une fois, je disais au début, tu rentres un peu dans l'intimité des joueurs quelque part, ou des personnes avec qui tu travailles, parce que j'ai aussi des amis qui ne sont pas joueurs, hein, mais qui sont dans des clubs avec qui je m'entends extrêmement bien, parce que comme dans la vie, hein, comme dans toutes les industries, des fois tu as des rencontres qui font que c'est le milieu professionnel qui t'a mis sur le chemin de ces personnes là et puis l'histoire continue parce qu'on est que des hommes et que l'amitié se crée.
Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça qui te nourrit en fait dans ce métier.
Complètement. Aujourd'hui, ça fait 20 ans, moi qui me nourris, c'est ça, c'est l'aventure humaine, quoi. Ouais. C'est l'aventure humaine, c'est des rencontres. Enfin, moi, mon plus grand, si tu veux, même si on n'est pas du tout intime et pas du tout, on se croise, on se salue, mais moi, j'ai été hyper fan et hyper heureux un jour de rencontrer et de discuter pendant 2 heures avec Philippe Sella,
avec
Serge Blanco ou avec Olivier Rouma. Avec, tu vois, Olivier Brouzet, avec Olivier Azam, enfin, tu vois, ces générations-là que je regardais, ou Fabien Galthié, on a le même âge, Laurent Labie, tu vois, c'est... Oh, voilà. Bon, alors après, c'est plus une question générationnelle, mais c'est des gens avec qui je pourrais passer, tu vois, je peux passer 6 heures à table sans aucun problème et passer un excellent moment, quoi.
Ouais, j'imagine.
Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix, ouais.
C'est sûr. Allez, je voulais juste dire un petit coucou à Victor Vito qui nous a mis en contact. J'ai demandé de trouver quelqu'un avec qui on peut apprendre ce métier d'agent et en passer un bon moment. Et franchement, Miguel, j'ai passé un bon moment avec toi. Je te remercie beaucoup d'être là.
C'est pareil. Et Victor Vito est le résumé de ce que est le rugby et de ce qu'il doit
C'est
être.
sûr.
C'est une belle personne en étant un joueur exceptionnel. Je vais même aller plus loin. Il est meilleur en tant qu'homme que joueur de rugby.
C'est une belle façon de finir. Merci beaucoup, Miguel.
Merci, à voir.
Donc écoute, franchement, j'ai passé un très très bon moment avec Miguel. Je pense que vous pouvez entendre, j'aurais pu passer 2 heures de plus avec lui, quelqu'un vraiment vraiment charmant, très très humain et vraiment et très famille aussi. Je peux comprendre pourquoi des joueurs ils viennent vers lui pour être son agent parce que vraiment c'est quelqu'un de très chaleureux et il donne beaucoup de lui-même. Donc j'ai dit grand merci à toi Miguel d'être passé sur notre mission.
En effet, c'était une super interview avec un mec qui a l'air excellent. On voit que vous avez passé un bon moment. J'espère que les écouteurs, ils ont aussi passé un bon moment en vous écoutant. Les écouteurs, on vous retrouve dans 15 jours. On a encore plein de trucs à se dire. Il faut aussi qu'on revienne sur les super perfs de nos gars et de nos filles de l'équipe de France à Dubaï, au Seven. On va parler rugby à 7. On va reparler de cette Coupe d'Europe, du tournoi des Six Nations féminin qui va continuer. On parlera aussi sûrement top 14. On va retrouver notre Alban, on va retrouver notre Théo. On a hâte de se retrouver. Et pour savoir ce que vous avez pensé de cette interview, pour savoir ce que vous voulez entendre dans 15 jours aussi, n'hésitez pas à nous suivre, à nous liker sur les réseaux sociaux, commenter. Dites-nous ce que vous voulez, ce que vous avez dans nos émissions. On se revoit dans 15 jours, les copains. À plus.
Allez, à très bientôt.
Salut mon ticket.
Ciao, ciao.